Super. Alors, ça fait quelques semaines qu'on le dit, qu'on nous le rappelle, on est ensemble en mission pour faire ce que Jésus nous a commandé de faire, d'aller parmi toutes les nations faire des disciples. Et dans notre vie de disciple, dans notre marche avec Jésus, il pourra y avoir et il y aura des temps plus difficiles à traverser. On l'a entendu le dimanche où on a fait le dimanche de l'Église persécutée. Jésus n'a rien caché à ce propos. Il a déclaré « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Et même sans aller jusqu'à la persécution, nous pouvons être découragés parfois dans notre marche à la suite de Christ, par les épreuves de la vie, par le doute, par le travail que ça demande peut-être, par les sacrifices que ça demande parfois. On a une famille qui va partir, bientôt, dans un super projet, aider sur une implantation à Genève. C'est quelque chose qui est plein de défis. Et même s'ils ont cette conviction que le Seigneur les appelle à partir, même si Dieu est avec eux au quotidien, il y aura peut-être des moments pour eux auxquels ça sera difficile. Nous aussi, on est en mission. Nous aussi, on a plein de beaux projets, plein de belles choses qu'on veut faire. Et on a besoin de ressources. Et puis parfois, c'est difficile. Même si Dieu a fait des promesses, même s'il dit qu'il sera tous les jours avec nous, il peut y avoir des moments où on oublie ça, où nous perdons de vue cela. Et là, on a besoin des uns des autres pour nous encourager. Et c'est ce sur quoi j'aimerais parler ce matin. S'encourager dans notre vie de disciple. C'est quelque chose de capital, on va le voir. On va prendre un texte pour ça dans l'Ancien Testament. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 23, si vous avez vos Bibles, vous pouvez commencer à chercher le chapitre 23, on lira quelques versets. Mais d'abord, j'aimerais planter le contexte. Vous connaissez sans doute, pour la plupart, l'histoire de David. La guerre fait rage contre les Philistins, les ennemis naturels d'Israël, et David se retrouve à l'arrière d'un champ de bataille. Et là, il apporte des vivres à ses frères qui ont été enrôlés dans l'armée. Et c'est alors qu'il entend quelque chose. Il entend un défi lancé par un géant qui s'appelle Goliath. Et ce dernier demande un duel avec un Hébreu. Et il challenge comme ça le peuple d'Israël. Et c'est alors, vous connaissez la suite, hein, David relève le défi, il va tuer Goliath, et le roi Saül va lui donner sa fille en récompense, Michal, qui l'épouse. Et David va devenir l'ami intime de Jonathan. Jonathan qui est le fils de Saül. Mais la popularité de David devient si grande que Saül y décède une menace directe pour son trône et pour la succession de son fils Jonathan. Vous savez, il y a ces chants qui retentissent. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000, etc. Et alors, la vie de David est menacée. Et pour échapper à la folie royale à son encontre, David décide de quitter le pays et de se faire mercenaire. Il part se cacher dans le pays des Philistins. Il est poursuivi par Saül. Et on va lire maintenant 1 Samuel 23, on va lire les versets 15 à 18. Voilà. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie. David était au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. Il lui dit, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. David est dans une situation difficile. C'est un des pires moments de sa vie. Il est à un point où il voudrait tout arrêter, tout quitter, abandonner, car c'est trop difficile. Saül veut le tuer et David doit fuir et se cacher. Et c'est à ce moment crucial que Jonathan vient au-delà des lignes ennemies. Il va aller au-delà des lignes ennemies, au péril de sa propre vie, trouver son ami pour l'encourager. Et ce qu'il fait a un impact dans la vie de son ami David. L'encouragement est très important pour chacune et chacun d'entre nous, je dirais même parfois vital. En manquer peut nous faire vaciller, peut nous faire abandonner ou nous faire prendre de mauvaises décisions. Car encourager, c'est donner du courage à quelqu'un pour renforcer son cœur face à l'adversité, face aux risques, face aux doutes. C'est l'inciter à persévérer. Et on a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être encouragé pour supporter la souffrance, pour rejeter la tentation, pour persévérer dans notre marche avec Jésus, dans ce à quoi il nous a appelés, pour faire confiance à Dieu et lui obéir. Et on pourrait allonger la liste. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble comment Jonathan s'y est pris. Jonathan, il s'est levé. Il est allé derrière les lignes ennemies. Il a encouragé son ami David en lui disant la vérité. Et il a affermi son courage en Dieu. J'aimerais commencer par un point qui est très logique, plein de bon sens. Qu'est-ce que fait Jonathan ? Jonathan se lève. Il nous est dit un peu plus avant dans Samuel, au chapitre 18, verset 1, que Jonathan aimait David. La Bible nous dit « comme lui-même ». Jonathan aimait David comme lui-même. Et puis ça m'a fait rappeler à ce commandement que Jésus nous a donné. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Vous voyez où je veux en venir. Nous devons agir comme Jonathan et nous lever pour aller à la rencontre d'un frère, d'une sœur, dont on sait qu'il ou elle a besoin d'être encouragé dans sa marche à la suite avec Jésus. Dans aimer, il y a encourager, il y a exhorter. Jonathan était très bien placé pour connaître la situation de David. Il était le propre fils du roi. Même si au début il douta des intentions de son père de vouloir tuer David, il va très vite comprendre que cette résolution était bien réelle, prise et irrévocable. Et il avait de la compassion pour David, de l'amour pour lui. Il était le plus à même de comprendre la situation dans laquelle il se trouvait et les sentiments que son ami devait ressentir. De la peur, sans doute. De l'abattement, du doute, de la tristesse. Et je pense que nous tous, nous ressentons à certains moments de nos vies cela pour un frère, une sœur, un ami proche. Nous le voyons, comme Jonathan, même s'il était loin, vous voyez, comprenez ce qui était en train de se passer. Et quand cela vient, nous levons-nous. Prenons-nous le temps, pardon, d'aller vers cette personne, agissons-nous, car c'est d'abord une décision, un choix. Un choix que nous avons à faire. Et Jonathan a pris cette décision. Il s'est levé car il savait que son ami, son frère, avait besoin de lui, besoin de le voir, d'entendre de sa bouche des paroles de réconfort, des paroles de vérité, des paroles d'espérance. David avait besoin de cela pour continuer d'avancer et d'espérer, tout comme chacune et chacun d'entre nous. Nous en avons besoin à certains moments de nos vies, d'entendre des paroles de réconfort, de vérité, d'espérance, de recevoir des gestes d'attention, de douceur et de réconfort. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie à plusieurs reprises. Il y a eu des temps difficiles. Et il y a des frères, des sœurs qui sont venus et qui se sont tenus à côté de moi. Alors que j'étais abattu, alors que je commençais à douter, ils sont venus et ils m'ont fait lever la tête. Ils ont dit la vérité sur ma vie, sur qui j'étais, sur ce que Dieu était. Nous voyons que Jonathan engage toute sa personne. Il n'envoie pas un messager porter son message, il se déplace personnellement. Les réseaux sociaux et autres WhatsApp, Messenger et SMS, c'est utile. Mais rien ne remplace une visite, un contact, un appel d'un frère, d'une sœur. D'ailleurs, je me suis demandé, si Jonathan avait eu le choix, s'il avait eu nos moyens de communication actuels, comment ça se serait passé ? Est-ce que vous pensez que ça se serait passé comme ça ? Salut David, c'est qui ? C'est Joe ! Salut Joe ! Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais ? Je crois que c'est ça, hein ? Caché, c'est la galère avec ton père. Sois fort, ouais ! T'inquiète, la main de mon père ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël. Top, merci. Je t'embrasse bien fort. Je caricature, bien sûr. Un peu volontairement, juste pour nous faire réaliser que même si tous ces moyens de communication sont bien, et c'est super, hein, parfois il faut nous engager davantage. Jonathan, il a laissé son confort, il a pris de grands risques pour aller voir et encourager son ami. C'était déjà le premier encouragement, première invitation que je voulais nous faire ce matin au travers de ce texte. nous encourager à nous lever. La personne qui encourage, Jonathan est allé vers David, et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit la vérité. Il n'était pas question de flatter son égo. Les proverbes nous mettent en garde. Proverbe 29, verset 5, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Proverbe 26, verset 28, la langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la ruine. Sérieux avertissement. Sous ces airs de bonbons acidulés et agréables en bouche au début, la flatterie est en réalité un poison qui détruit. Elle est un compliment exagéré, intéressé. C'est ça la flatterie. La définition dans le dictionnaire, c'est une louange fausse ou exagérée, donnée dans le dessein de plaire, de séduire ou d'exploiter la personne. Vous vous souvenez sans doute de cette fable de La Fontaine. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Vous connaissez la suite. Le fromage va tomber et le renard va avoir ce qu'il voulait. Ça, c'est la flatterie. C'est l'opposé de l'encouragement dans la Bible. Paul, d'ailleurs, nous met en garde. Il nous dit « Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. » Romains 16, verset 18. Et également, dans sa lettre aux Thessaloniciens, « Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. » Encourager, ce n'est pas ça. Encourager, c'est d'abord être vrai, c'est dire la vérité. C'est ne pas cacher ce qui pourrait blesser, ni en dire plus que ce qui n'est vraiment. C'est dire la vérité dans l'amour. Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandissons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Et dans ce texte, Jonathan y déclare « Tu règneras sur Israël. » Quand David a raconté comment il avait tué Goliath à Saül, si vous lisez le texte un peu plus tôt, Jonathan était là et il entendait le récit de David. Il a tout entendu. Et au lieu d'être jaloux, après tout, il était le fils du roi, il était l'héritier légitime du trône, au lieu de ça, il a beaucoup d'admiration pour David. Il va conclure une alliance avec lui, un pacte avec lui. Et il va aller jusqu'à lui donner son manteau et ses armes. Il voit en David ce qu'il ne voyait sans doute plus en son père, un amour et un respect pour Dieu. Et au travers de son amitié avec David, il va connaître que Dieu a choisi David pour le faire roi. Et dans cette période de crise et de doute pour David, Jonathan vient et lui rappelle la vérité à son sujet. « David, tu régneras sur Israël, tu seras roi, tu es roi. » C'est une affirmation puissante qui change le regard que David a sur lui-même à cet instant. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples où Dieu déclare des choses sur des personnes avant même qu'elles n'aient fait quoi que ce soit. Le Saint-Esprit dit à Marie par la bouche d'Élisabeth, « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Elle dit ça à quelqu'un qui est vierge. Abraham, qui n'a jamais eu d'enfant, Dieu lui déclare, « Tu deviendras le père d'une foule de nations. » Et même son propre fils, quand Jean-Baptiste vient le baptiser, une voix retentit des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » C'est ce que le père dit de son fils, et son fils n'a encore rien fait. Aucune guérison, aucun enseignement, il n'a pas encore choisi ses disciples, aucune foule ne le suivait encore. Il était un charpentier qui faisait sans doute très bien son travail jusqu'à ce moment précis où le Père déclare « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Dieu déclare ce que la personne est premièrement et les fruits, les actes viennent ensuite. Nous encourageons d'abord nos frères et sœurs dans leur vie de disciples en leur rappelant qui ils sont devenus en Christ. Car dans l'épreuve, nous pouvons l'oublier. Tu as été racheté pour Dieu. Tu es précieuse, tu es précieux pour lui. Dieu t'aime tel que tu es. Tu es fils, tu es fille du roi. Et si tu es enfant, tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois tu souffres avec lui afin d'être aussi glorifié avec lui. Recevoir une parole de ce que nous sommes selon Dieu nous aide à nous voir comme Dieu nous voit. Dans ses lettres aux églises, Paul parlait aussi avec vérité sur Dieu, la vérité sur leur nouvelle nature en Christ. Vous pouvez lire l'Épître aux Romains, aux Éphésiens, la vérité sur Dieu, sur Christ, mais aussi la vérité sur leurs agissements, sur leurs comportements. Il ne cachait rien. Il met en avant ce qui est louable, sans ressentir le besoin d'exagérer, et il ne néglige pas non plus le péché. Il ne l'excuse pas, mais il le confronte. Et il le pardonne pour celui qui se repent. Les encouragements englobent aussi cela. Les encouragements constants qui ne prennent jamais en compte aucune correction peuvent ne pas dire toute la vérité. Donc un point important quand on vient encourager une personne, on lui parle en vérité. La personne qui encourage affermit le courage en Dieu. Jonathan exhorte David, il l'encourage à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. Il lui dit au verset 17, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. » Il le challenge. Il l'encourage. Il lève ses yeux. Peut-être qu'une part de David ne voulait pas entendre ce que Jonathan avait lui dire, mais quelque part, ça a sauvé sa vie. Et ça a sauvé sa destinée. Et par extension, ça a sauvé la destinée de tout Israël. Et par extension, cela a sauvé la destinée du monde entier. Vous connaissez toute la généalogie de David. Et juste Jonathan, à un moment de l'histoire, qui vient encourager, exhorter David à un moment difficile de sa vie. Ne sous-estimons pas la puissance de l'encouragement dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Même si David était oint par Samuel que l'Esprit de l'Éternel, nous dit la Bible, s'était emparé de lui depuis ce jour où il a été oint par Samuel, même s'il avait battu le géant Goliath, remporté de grandes batailles, aussi fort qu'il était à ce moment de sa vie, David a eu besoin d'être encouragé. Nous aurons tous des temps dans nos vies où nous aurons besoin d'être mis au défi, encouragés, à ne pas baisser les bras, mais à résister, à tenir bon. Chacun d'entre nous, chacun de vos responsables, tous. Est-ce que ce que Jonathan fait avec David, il le défie, il lui dit « Ne te sauve pas, n'abandonne pas, n'aie pas peur, sois sans crainte. » Il va le chercher là où il s'est arrêté pour l'aider à revenir sur la piste. C'est ce que l'encouragement produit. Il aide à revenir sur la piste et à achever la course que Dieu nous a appelés à courir. Baisse. C'est l'épreuve du 4 x 100 mètres aux Jeux Olympiques en 1992 à Barcelone. Et il y a Derek Redmond, qui pourtant était un des favoris, va avoir un claquage à un moment donné au niveau de sa jambe. Et il va être tenté d'arrêter sa course. Il stoppe son effort, son corps vient le lâcher, c'est la déchirure du tendon du jarret droit, mais malgré cela, il décide de repartir, mais c'est dur. Les autres finissent la course, la douleur est intense, mais il décide de repartir. Mais c'est de plus en plus dur. Et dans le dernier virage, un homme va descendre des tribunes, passer la barrière de sécurité et se mettre à courir derrière Derek. C'est son père, Jim. C'est à cet instant qu'il vient soutenir son fils, lui dire « Nous avons commencé ta carrière ensemble et nous allons la finir ensemble. » Et il va l'encourager à tenir jusqu'au bout tout en gardant les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Certains vont venir essayer de le décourager, leur dire d'arrêter. Et son fils va aller jusqu'au bout, il va le soutenir pour aller jusqu'au bout. Voilà, ils vont franchir la ligne d'arrivée ensemble. C'est fait. La ligne d'arrivée a été franchie. Voilà. C'est une image qui n'est pas parfaite, loin de là, mais c'était juste, ça m'a fait penser à cet événement-là. Il y a un moment où, dans notre course, on peut être blessé, où on peut être stoppé. Et on voit la ligne d'arrivée, et on a envie de repartir, et on repart. Dans certains cas, des fois, on ne repart pas. Et je trouve que cette image, elle est belle, du père qui descend et qui vient encourager son fils, qui vient le soutenir, qui vient le porter, Et j'y ai vu plusieurs images. Je vois bien sûr l'image du Père qui est descendu et qui vient être à nos côtés par son Saint-Esprit, qui vient nous soutenir et qui nous aide à garder espoir en lui, à regarder, à fixer la ligne d'arrivée, comme nous dit Paul, mais dans cette course, et il nous encourage à avancer. Mais j'y voyais aussi l'image d'un frère, d'une sœur, qui vient encourager celui qui a besoin au moment où il en a besoin. Et ce qui est super aussi, c'est quand le Père arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué, à ce moment-là, il se met à pleurer. Il est vrai, dans cet instant-là, le Derek. Et on a besoin d'être encouragés les uns les autres. Et Jonathan a un impact profond dans la vie de David à ce moment-là. Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. Pour affermir son courage en Dieu. Le courage, la traduction, le mot original, en fait, c'est la main. Pour affermir sa main en Dieu. C'est comme si Jonathan mettait la main de David à nouveau dans la main de Dieu. David était découragé, il était vraiment au plus bas, on l'a dit, et c'était dur pour lui depuis longtemps. C'est comme s'il avait pris d'autres mains entre-temps. Et si vous ne tenez pas la main de Dieu, vous tenez la main de quelqu'un d'autre. Peut-être la main de la peur, peut-être la main du découragement, de la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Consciemment ou inconsciemment, vous leur faites confiance. Vous savez, c'est comme l'image d'un enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les enfants, ils tiennent la main de leur papa ou de leur maman, et puis à un moment donné, ils ne se rendent pas compte, ils sont attirés par quelque chose, et puis ils reprennent la main, et puis ils ne se sont pas rendus compte que c'est la main de quelqu'un d'autre. Et puis ils vont continuer un petit peu comme ça à marcher, et puis ils vont réaliser à un moment donné, ouvrir les yeux et se dire « Mais c'est pas mon papa !» Vous avez tous vu ça, j'en suis certain. Et vous avez besoin d'être interpellé. Tu as saisi la mauvaise main, tu te trompes, saisis la main de Dieu. Comme Jonathan qui va vers David dans le bois et fortifie sa main en Dieu. Place à nouveau la main de David dans celle de Dieu. Jonathan connaissait David, il savait qui il était vraiment. Il connaissait son cœur, il connaissait sa valeur. Et les personnes qui encouragent connaissent le cœur et la valeur des personnes vers qui elles vont. Elles ont, parfois c'est un don de Dieu, un don de discernement. C'est vrai, hein ? Joseph, surnommé Barnabas, ce qui voulait dire littéralement « l'homme qui encourage ». Dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 36, il nous est dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Dans Actes 9, Paul venait de rencontrer Jésus, mais les disciples le craignaient encore. Et il nous est dit au verset 26, « Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple ». Et Barnabas y voit au-delà. Il voit Paul tel qu'il est, vraiment, et le prend avec lui. Et Barnabas, il a cru en Paul. Barnabas, il a vu ce que personne d'autre ne voyait. Et le don d'encouragement, c'est quelque chose en sorte. Vous voyez chez la personne ce que personne d'autre ne voit, peut-être même la personne elle-même. Et vous l'encouragez. Vous dites la vérité et la personne commence à croire. C'est un don de Dieu aussi. Et on doit apprendre à discerner le cœur et la valeur des personnes qui nous entourent, apprendre à capter le regard de Dieu sur elles. On peut demander ça à Dieu. Désirer les dons, et c'est un don. Une église en bonne santé est une église où l'encouragement est valorisé et où l'encouragement est exercé envers chaque personne qui la compose. Nous avons tous des raisons d'encourager et d'être encouragés. Alors nous devons nous lever comme Jonathan, aller vers la personne qui en a besoin pour lui dire la vérité et affermir son courage en Dieu. Dieu ne s'est pas contenté de nous encourager par le biais de messages inspirés, mais il a incarné l'encouragement en chair et en os au travers de son Fils Jésus-Christ. Même la veille de la trahison de Judas, alors qu'il se préparait à braver les cris de la foule, à braver la croix puis la mort, Jésus s'est arrêté pour encourager les hommes fragiles et craintifs qui le suivaient. Et comment il a fait ? Voici que l'heure vient, il leur a parlé, hein ? Voici que l'heure vient, et même elle est venue, vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il leur dit la vérité. Je suis sur le point de mourir et de vous quitter, Et malgré vos bonnes intentions actuelles, vous allez m'abandonner, tous. Et après mon départ, vous serez confrontés à une tribulation encore plus grande. Pire, ces encouragements ne voilaient pas la honte de leur trahison, ni la dureté de ce qu'ils allaient chacun subir. Cependant, il leur dit également ce qu'il sera pour eux à travers ces épreuves. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans ces moments de fragilité et de crainte, ils n'étaient pas en train de renforcer leur confiance en eux-mêmes. Bien au contraire, il leur apprenait à endurer les difficultés et la souffrance en espérant en lui. Et c'est ce que nous devons faire quand on encourage quelqu'un qui traverse une épreuve. Se lever, aller vers la personne, être avec elle, lui parler, lui dire la vérité, affermir sa main en Dieu, lui redonner espoir en Dieu. Nous avons tous besoin de ce genre d'encouragement, honnête, plein d'espoir et tourné vers Dieu, jour après jour, lorsque nous le suivons. Amen. Amen.